Bonjour, je m'appelle Alexandre et je vais vous lire un extrait d'Alexandre Dumas. Monsieur de Tréville était pour le moment de fort méchante humeur. Néanmoins, il salua poliment le jeune homme qui s'inclina jusqu'à terre et il sourit en recevant son compliment. Mais, se rapprochant presque aussitôt de l'antichambre et faisant à D'Artagnan un signe de la main, comme pour lui demander la permission d'en finir avec les autres avant de commencer avec lui, il appela trois fois, en grossissant la voix à chaque fois. « Athos, Porthos, Aramis !» Les deux mousquetaires, avec lesquels nous avons déjà fait connaissance, quittèrent aussitôt les groupes dont ils faisaient partie et s'avancèrent vers le cabinet, dont la porte se referma derrière eux dès qu'ils en eurent franchi le seuil.
« Savez-vous ce que m'a dit le roi ? Cela pas plus tard qu'hier au soir. Le savez-vous, monsieur ?»«
Non !» répondirent après un instant de silence les deux mousquetaires. « Non, monsieur, nous l'ignorons.
Il m'a dit qu'il recruterait désormais ses mousquetaires parmi les gardes de monsieur le cardinal. »«
Parmi les gardes de monsieur le cardinal ? Et pourquoi cela ?» demanda vivement Porthos. «
Parce qu'il voyait bien que sa piquette avait besoin d'être ragaillardie par un mélange de bon vin. »
Les deux mousquetaires rougirent jusqu'au blanc des yeux. D'Artagnan ne savait où l'on était et eût voulu être à 100 pieds sous terre. « Oui, oui !» continua M. de Tréville en s'animant. « Oui, et sa majesté avait raison, car, sur mon honneur, il est vrai que les mousquetaires font triste figure à la cour.
« Monsieur le cardinal racontait hier au jeu du roi qu'avant-hier, ces damnés mousquetaires s'étaient attardés rue Férou, dans un cabaret, et qu'une ronde de ses gardes avait été forcée d'arrêter les perturbateurs.
« Morbleu, vous devez en savoir quelque chose. Vous en étiez, vous autres. Ne vous en défendez pas. On vous a reconnu, et le cardinal vous a nommé. Voilà bien ma faute, oui, ma faute, puisque c'est moi qui choisis mes hommes. Et Athos, je ne vois pas Athos. Où est-il ? » ?»«
Monsieur, répondit tristement Aramis. « Il est malade, fort malade. »«
Malade ? Fort malade, dites-vous ? Et de quelle maladie ?»«
On craint que ce ne soit de la petite vérole, monsieur, » répondit Porthos, voulant mêler à son tour à moi la conversation. « Et ce qui serait fâcheux, en ce que très certainement cela gâterait son visage. »«
De la petite vérole ! Voilà encore une glorieuse histoire que vous me contez là, Porthos. »«
Malade de la petite vérole à son âge ! »
« Non pas, mais blessé sans doute, tué peut-être. »«
Ah, si je le savais, sans Dieu !»«
Monsieur les mousquetaires, je n'entends pas que l'on hante ainsi les mauvais lieux, qu'on se prenne de querelles dans la rue et qu'on joue de l'épée dans les carrefours. Je ne veux pas enfin qu'on prête à rire aux gardes de monsieur le cardinal, qui sont de braves gens, qui ne se mettent jamais dans le cas d'être arrêtés, et qui d'ailleurs ne se laisseraient pas arrêter eux. »
Bonjour, je m'appelle Yomna et je vais vous lire un extrait de Une île pour Vanille de Sophie Régal-Goulard. Départ précipité. J'arrive chez moi en un temps record. Je me précipite dans ma chambre. Je me jette sur mon sac à dos et voyant qu'il sera trop petit pour y mettre les affaires que j'ai prévu d'emporter, j'emprunte celui de Margot. J'y entre un sac de couchage, lampe de poche et quelques vêtements de rechange. Je fous dans le placard de la cuisine pour attraper des paquets de gâteaux. Le téléphone sonne. Je préfère l'ignorer. Je ne veux plus parler à personne. La sonnerie retentit à nouveau avec insistance. Je débranche la prise d'un geste de rageur. Je prépare une mini trousse de toilette et je range mes maigres économies dans mon portefeuille. Je jette un dernier regard à ma chambre. Je fais le tour de ma maison. Je caresse le Nautil dans sa coupe et je le porte à mon oreille. Il me semble entendre le murmure de l'océan. C'est un signe ! Le coquillage me dit au revoir. Mon ventre gronde dangereusement. « Tais-toi !» je lui ordonne. « C'est juste un mauvais moment à passer. » Je sors sur la terrasse. Les alizés soufflent fort et les palmiers bougent en cadence dans le lointain. Je respire un grand coup avant de fermer la porte de ma maison. « Vanille, Vanille !» on hurle mon prénom au bout de la rue. Je m'apprête à partir en courant lorsque je réalise que ce sont Moura et Lucille qui m'appellent. « J'ai une super idée !» me lance-t-elle à bout de souffle. « Ouais !» Moura encore plus épuisé par sa course. On a essayé de t'appeler, mais tu ne répondais pas. Je m'assois sur les marches de la terrasse en serrant mon sac contre moi. J'allais partir sans dire au revoir à mes amis. J'ai honte de moi. Les passeports, chuchote enfin Lucille. C'est la vraie bonne idée pour Il faut sauver Vanny. On pique les passeports. Plus de départ possible sans eux, ajoute Amoura. C'est fin choc. Mes amis me regardent, leurs yeux brillent d'excitation. Je vois à quel point elles sont satisfaites de leur plan. Je ne peux plus parler, juste pleurer. Moura me serre dans ses bras et Lucie s'inquiète. Mais si, Vanny, ça va marcher, c'est sûr. On fout dans les affaires de ton père, on prend les passeports et on s'y met la cambriolage. Pourquoi tu pleures? Et qu'est-ce que tu transportes dans ce sac? Je m'essuie les joues lentement. Je n'ai pas besoin de me lancer dans de grandes explications. Mes deux amis ont compris. Tu es allé partir? Là? Aujourd'hui? Murmura Moura. Sans nous prévenir? Lentement, je relève la tête. Je tente d'expliquer ma décision. Je raconte le comportement de mon père. Je m'en vais, ce soir, c'est sûr. On oublie les passeports. On oublie, il faut sauver Vanny. Lucille et Moura s'assoient sur les marches à côté de moi. Tu es sûr? On peut au moins essayer notre dernier plan. Non? Chuchote Lucille. Je ne veux plus courir d'idée en idée pour être déçue à chaque fois. Vous avez été génial, du début à la fin. Mes deux amies n'insistent pas. Elles me connaissent suffisamment pour savoir que je suis vraiment décidée.
Bonjour, je m'appelle Anas, je suis dans la classe de Madame Ducron en CM2. Je vais vous lire un extrait de Charles 1943. Les cloches de l'église sonnent 6h du matin. Charles ouvre la moitié d'un œil. 6h, c'est tôt pour un dimanche, c'est trop tôt. Charles baille encore. Il a envie de se rouler en boule et de remonter les dredons par-dessus sa tête. Mais ce n'est pas possible, car aujourd'hui, ce n'est pas n'importe quel dimanche, c'est la fête des mères. Et pour cette occasion, Charles a décidé de ramener à la maison un steak. Drôle de cadeau pour une fête des mères, me direz-vous. Certes, et puis, on ne se lève pas à 6h du matin pour aller chasser le steak. Ce n'est pas une expédition d'aller acheter un morceau de viande. Surtout quand on habite dans une grande ville. Il suffit de prendre son porte-monnaie, son sac de course, traverser quelques rues peut-être pour se rendre à la boucherie ou même à la supérette. Et hop, le tour est joué. Oui, aujourd'hui, pour beaucoup de gens, acheter un morceau de viande ressemble à ça. Mais à Paris, en mai 1943, pour un garçon de 12 ans, ramener un steak à la maison, c'est une autre paire de manches. Il y a un peu plus de 3 ans, en septembre 1939, les Français sont entrés en guerre contre les Allemands. En juin 1940, la France a perdu et a signé l'armistice. Donc théoriquement, la guerre est finie, puisque ce sera ça les armistices, à terminer les guerres. Sauf que non, ce n'est pas fini. D'une part, parce que le conflit est mondial. Il y a encore un tas de combats absolus partout sur le globe, sur tous les continents, entre tout le monde et tout le monde. Allemands évidemment, Australiens, Anglais, Russes, Brésiliens, Italiens, Grecs, Chinois et Japonais. D'autre part, parce que la France vit désormais sous le régime de l'occupation. Loin d'être entrés chez eux, les vainqueurs se sont installés et font régner la terreur. À Paris, où vit Charles, les rues sont pleines de soldats allemands en armes et de blindés. Le drapeau rouge à croix gammée, symbole du régime nazi, flotte sur tous les monuments. On peut se faire dénoncer, arrêter en pleine rue ou chez soi, pour un oui pour un non. De nombreuses familles craignent pour leurs proches, restés prisonniers outre Rhin. On avait mieux camper. D'autant que si le 17 juin 1940, depuis Bordeaux, le nouveau chef des Français, le maréchal Pétain, a déclaré « C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. » Le lendemain, depuis Londres, le général de Gaulle a répondu « Mais les derniers mots, tu le dis, l'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non !» Certains prennent ce deuxième message au pied de la lettre. Ce sont les résistants. Des Françaises et des Français qui, tout au fond d'eux, n'ont pas capitulé, continuent de faire la guerre, pas ouvertement, pas clandestinement, mais tout en se donnant des airs de mener une vie normale.
Bonjour, je m'appelle Alma, je suis dans la classe de Madame Ducrot en CM2. Et je vais vous lire un extrait de « Histoire pressée à toi de jouer » de l'auteur Bernard Friot. Exercice. la mère de Charles a invité ses amis pour prendre le thé. Depuis sa chambre, Charles les entend papoter. Il décroche le téléphone et compose un numéro au hasard. D'après la voix à l'autre bout de la ligne, il est tombé chez une vieille dame. « Bonjour, chère madame, » dit Charles très lentement, en articulant chaque mot exagérément. « Vous êtes une vieille autruche alcoolique, complètement déplumée, congelée, déshydratée et lyophilisée. » « Mon petit Charles !» demande sa mère depuis le salon. « Mon petit Charles, tu ne t'ennuies pas ?»« Non, maman !» répond Charles. « Je fais du français, un exercice de vocabulaire !» Et toutes les dames du salon gloussent en cœur. « Quel enfant sérieux ! Quel enfant studieux !» Charles va chercher de l'atlas dans le bureau de son père. Sur la carte de l'Islande, il écrase une glace à la vanille. Il laisse couler du ketchup sur la Pologne et du produit à vaisselle sur la Nouvelle-Calédonie. Pour l'Australie, il choisit du yaourt à framboise et de l'encre de Chine pour la Somalie. « Mon petit Charles !» demande sa mère. « Tu ne t'ennuies pas ?»« Non, maman !» répond Charles. « Je fais de la géographie, la carte des fleuves avec les océans et les rivières. » Et toutes les dames du salon gloussent en cœur. « Quel enfant sérieux ! Quel enfant studieux !» Dans l'entrée, ces dames ont entassé leur manteau de fourrure et laissé leur sac à main. En fouillant, Charles découvre quelques porte-monnaies. Il les vide soigneusement et cache tout l'argent dans le panier du chat. « Mon petit Charles !» demande sa mère. « Tu ne t'ennuies pas ?»« Non, maman !» répond Charles. « J'ai fait des mathématiques, des additions et des soustractions. » Et toutes les dames du salon gloussent en cœur. « Quel enfant sérieux ! Quel enfant studieux ! » !»« Eh oui !» dit fièrement à maman. « Il est le premier de sa classe. » Et Charles, pendant ce temps, a pêché le poisson rouge dans son bocal et sorti des ciseaux pointus. « Bon, maintenant, se dit-il, je vais faire de la biologie. »
Bonjour, je m'appelle Marie. Je suis en classe de CM2 dans la classe de Madame Albertine et je vais vous présenter le baobab magique de Souleyman Mbodji. Il y a longtemps, très longtemps, la famine sévissait à Ndoubelan, le village des animaux. Il n'y avait vraiment plus rien à manger. Afin de trouver quelque nourriture pour sa famille, Luck, le lièvre, décida de tenter sa chance sur les routes de la savane. Il prit un grand sac et se mit en route. Après avoir marché pendant des jours et des jours, il aperçut un baobab solitaire au beau milieu de la savane. Il décida de s'arrêter à l'ombre de ses larges branches pour se reposer un peu. Quand il fut assis, Luck entendit une voix qui lui disait « Mon ombre est fraîche, mais tu devrais goûter mes feuilles. » C'était le baobab qui parlait. En lui disant cela, il avait secoué ses branches. Le lièvre ramassa les feuilles et après les avoir goûtées, dit « Elles sont délicieuses, merci !» Le baobab ajouta « Monte sur mon tronc. Au milieu, tu verras une porte. Ouvre-la. » Luck grimpa, ouvrit la porte et découvrit une grande table où étaient disposés des plats de tous les pays. Du riz au poisson, des spaghettis, des nems, des frites, du couscous, de la ratatouille, des tartes et bientôt de spécialités tout aussi délicieuses les unes que les autres. Le lièvre se régala, puis il remplit son sac et remercia l'arbre. Le baobab lui dit « Ce n'est pas fini, grimpe encore un peu et regarde derrière la deuxième porte. » Luck s'exécuta, ouvrit la porte et s'émerveilla devant des paniers pleins de fruits de tous les pays. Des mangues, des oranges, des kiwis, des poires, des cerises, des framboises, des bananes, des pommes. Il en mangea quelques-uns et en mit d'autres dans son sac en le remerciant. Le baobab lui dit « Ce n'est pas fini. Grimpe encore plus haut. Ouvre la troisième porte et tu découvriras des habits de tous les pays. Des boubous, des chemises, des robes, des saris, des pantalons, des vestes. » Le lièvre obéit, se couvrit d'habits, en glissa aussi dans son sac et remercia le baobab. Celui-ci lui dit « Ce n'est pas fini. Grimpe sur ma plus haute branche et ouvre la dernière porte. » Et là, Luck trouva un sac plein d'or. Il se servit et remercia chaleureusement le baobab. Ce dernier lui dit alors « Maintenant, rentre chez toi et partage ces richesses avec les autres. Le lièvre fit comme le baobab lui avait dit et distribua les plats délicieux, les fruits, les vêtements et l'or. Ce fut une grande fête dans tout le village.
Bonjour, je m'appelle Antonia, je suis en CM1 dans la classe de Madame Mambrine et je vais vous lire un extrait du livre « Le loup qui découvrait le pays des contes ».
Quand loup se réveilla ce matin-là, le soleil brillait haut dans le ciel. C'était un temps parfait pour le grand goûter du printemps qui aurait lieu l'après-midi même dans la forêt.
Cette année, pour le goûter, je vais faire un gâteau aux pommes, décida loup. Le souci, c'est que je ne sais pas cuisiner.
Loup prit un panier et sortit. Dans la forêt, il trouverait bien quelqu'un pour l'aider.
Loup marcha longtemps, sans rencontrer personne. Enfin, au détour d'un sentier, il tomba nez à nez avec trois petits cochons qui construisaient leur maison.
« Au secours, le loup !»
hurla les cochonnets.
« Il va nous dévorer !»«
Dévorer 2 millions de petits cochons, mais pas du tout !» s'exclama Loup horrifié.
« Alors tu vas souffler, souffler, nos maisons vont s'envoler ?»«
N'importe quoi !» Moi, ce que je voudrais, c'est cuisiner un gâteau aux pommes, mais je ne sais pas comment faire.
Étonnés, les trois petits cochons se regardèrent.
Et si on lui donnait la recette de Tati Rosette? Son gâteau aux pommes est le meilleur de la planète.
D'accord, fit le plus sage des cochons. Mais à une condition, qu'il nous aide à finir nos maisons.
Loup se mit gaiement au travail. Quand il reprit la route, il était courbattu. Mais il avait la recette de Tati Rosette. Il ne lui restait plus qu'à rassembler les ingrédients. De la farine, du beurre, des œufs, du sucre et des pommes, bien entendu. Tout en avançant, Loup pensa à son gâteau. Moelleux, fondant, sucré, délicieux. Il en avait l'eau à la bouche.
« D'abord, il me faut de la farine, fit Loup. Et si je demandais ici ?»
Toc, toc, toc. Et doucement, la porte s'ouvrit. Et 7 millions de chevreaux pointèrent leurs museaux. Loup s'avança et « Vlan !» Quelqu'un l'assomma. Quand il rouvrit les yeux, Loup était ligoté et il avait très mal à la tête.
Alors le loup, on se croit encore le plus fort ? Gronda la maman chèvre.
Certainement pas, protesta Loup. Je voudrais de la farine, c'est tout.
De la farine pour montrer patte blanche et dévorer mes chevreaux ?
Non, bredouilla Loup. De la farine pour faire un gâteau.
Par chance, la chèvre adorait cuisiner. En échange de la recette de Tati Rosette, elle donna à Loup de la farine. Et hop, le jeta dehors.
Bonjour, je m'appelle Elliot et je vais vous lire un extrait du Minotaure, la chute d'Icare de Karine Tournade. Cette nuit-là, aux portes d'Athènes, les gardes de la ville s'étaient assoupis, bercés par la chaleur et le souffle du vent. La lance à la main, les hommes avaient fermé leurs yeux, tels des soldats somnambules, prêts à attaquer, alors même qu'ils semblaient dormir. Tout paraissait calme aux alentours. Seulement, grondements sourds, lointains et réguliers, venaient rompre le silence de la ville endormie. L'un des hommes armés s'éveilla cependant au bruit de ce mouvement cadencé. Il ouvrit un œil, puis deux, rien en vue. Il serra un peu plus fermement sa lance. Inquiet, il scruta la nuit sans lune. Il ne jugea pas nécessaire, tout d'abord, d'interrompre le repos de ses camarades. Après tout, ce bruit n'était peut-être dû qu'au mouvement loin de la mer. Alors, il tendit l'oreille un peu plus attentivement. Immobile et aux aguets, il écoutait avec concentration le bruit indistinct et pourtant grandissant qui venait perturber la tranquillité des lieux. Petit à petit, le son devint plus précis et plus puissant. Puis, le sol parut s'agiter, comme tremblant sous le mouvement rythmé qu'on entendait au loin. Ce n'était que de très légères vibrations, à peine perceptibles, mais la terre vibrait tout de même. Alors, après avoir observé encore un moment ce phénomène étrange, Le garde de la ville sembla comprendre d'un coup, comme si subitement la réalité lui était apparue en sursaut. « Camarades, réveillez-vous » hurla-t-il. Une seconde plus tard, les hommes de garde étaient debout, prêts à agir. « Qu'y a-t-il ? » demande l'un d'eux effrayé. « Entendez-vous ce bruit cadencé dans le lointain ?» répondit le garde. « C'est celui des pas lourds et réguliers, des soldats ennemis qui viennent vers nous. Je les reconnais. Rien qu'à leur saut, je peux vous dire qu'ils sont nombreux, très nombreux. Mais qui viendra attaquer Athènes ?» rétorqua un autre. « Notre roi Ege a-t-il des ennemis ?»« Certes, oui, » reprit un garde qui s'avança parmi eux. Partout, on raconte que notre roi s'est rendu coupable d'un abominable crime envers Minos qui règne sur la Crète. On dit qu'il a tué son fils Androgé. Minos veut obtenir vengeance. Sans aucun doute, ce sont les soldats crétois qui avancent vers nous pour faire payer sa faute. Il n'y a plus un instant à perdre. Donnons l'alerte avant qu'il soit trop tard, conclut un garde avisé.
Bonjour, je m'appelle Marie, je suis en CM2 dans la classe de Monsieur Gauthier et je vais vous lire un extrait du livre de Charlie la chocolaterie de Roald Dahl. Tu veux dire que le public aura accès à la chocolaterie ? Cria grand-papa Joe. Lis-nous cet article, vite ! Bien, dit Monsieur Bucket en passant la main sur le journal. Écoutez. Journal du soir, Monsieur Willy Wonka, le confiseur de génie que personne n'a vu pendant les 10 dernières années, fait connaître l'avis suivant. Je, sous-signé Willy Wonka, ai décidé de permettre à 5 enfants, 5 et pas plus, retenez-le bien, de visiter ma chocolaterie cette année. Ces 5 élus feront le tour de l'établissement piloté par moi-même et seront initiés à tous ses secrets, à toute sa magie, puis, en fin de tournée, tous auront droit à un cadeau spécial. Il leur sera fait don d'une quantité de chocolat et de bonbons qui devra suffire jusqu'à la fin de leur jour. Enfants, cherchez bien vos tickets d'or. 5 tickets d'or ont été imprimés sur papier doré, et ces 5 tickets d'or sont cachés dans le papier d'emballage ordinaire de 5 tablettes ordinaires de chocolat. Ces 5 tablettes seront en vente n'importe où, dans n'importe quelle boutique, de n'importe quelle rue, dans n'importe quelle ville, de n'importe quel pays du monde. Partout où sont vendues les confiseries Wonka. Et les 5 heureux, gagnants de ces 5 tickets d'or, seront les seuls à pouvoir visiter ma chocolaterie. Eux seuls verront comment elle se présente maintenant à l'intérieur. Bonne chance à tous et bon courage, Willy Wonka. Il est fou, grommela grand-maman Joséphine. C'est un génie, s'écria grand-papa Joe. C'est un magicien. Pensez à ce qui va arriver maintenant. Le monde entier fera la chasse aux tickets d'or. Tout le monde achètera les tablettes de chocolat Wonka dans l'espoir d'en trouver un. Il en vendra plus que jamais. Oh, comme ce serait passionnant de trouver un ticket d'or. Et tous ces chocolats, tous ces bonbons qu'on pourrait manger pour le reste de nos jours gratuitement, dit grand-papa George. Imaginez un peu. Il devra les livrer à domicile, en camion, dit grand-maman Georgina. « Rien que d'y penser, j'ai mal au cœur, » dit grand-maman Joséphine. « Sottise !» cria grand-papa Joe. « Qu'est-ce que tu dirais, Charlie, si tu trouvais un ticket d'or dans une tablette de chocolat ? Un ticket d'or tout brillant ?»« Ce serait épatant, grand-papa, mais c'est sans espoir, » dit tristement Charlie. « On ne m'en offre qu'une par an. »« Sait-on jamais, mon chéri ?» dit grand-maman Georgina. « La semaine prochaine, c'est ton anniversaire. Tu as autant de chance que les autres. » « J'ai bien peur que ce ne soit pas vrai, » dit grand-papa George. « Les gosses qui trouveront les tickets d'or seront de ceux qui peuvent s'offrir des tablettes de chocolat tous les jours. Notre Charlie n'en a qu'une par an, c'est sans espoir. »
Bonjour, je m'appelle Noël Routoulon-Dalavi, je suis un élève de la classe de CM2 bilingue de l'école Lovicogne à Calvi. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un extrait du livre « Le petit Nicolas » de Sempé et Goscinny. On a eu l'inspecteur. La maîtresse est entrée en classe toute nerveuse. « Monsieur l'inspecteur est dans l'école », elle nous a dit. « Je compte sur vous pour être sage et faire une bonne impression. » Nous, on a promis qu'on se tiendrait bien. D'ailleurs, la maîtresse a tort de s'inquiéter. Nous sommes presque toujours sages. « Je vous signale, » a dit la maîtresse, « que c'est un nouvel inspecteur. L'ancien était déjà habitué à vous, mais il a pris sa retraite. » Et puis, la maîtresse nous a fait des tas et des tas de recommandations. Elle nous a défendu de parler sans être interrogée, de rire sans sa permission. Elle nous a demandé de ne pas laisser tomber de billes comme la dernière fois que l'inspecteur est venu et qu'il s'est retrouvé par terre. Elle a demandé à Alceste de cesser de manger quand l'inspecteur serait là. Et elle a dit à Clotaire, qui est le dernier de la classe, de ne pas se faire remarquer. Quelquefois, je me demande si la maîtresse ne nous prend pas pour des guignols. Mais comme on l'aime bien, la maîtresse, on lui a promis tout ce qu'elle a voulu. La maîtresse a regardé pour voir si la classe et nous étions bien propres. Et elle a dit que la classe était plus propre que certains d'entre nous. Et puis, elle a demandé à Agnan, qui est le premier de la classe, et le chouchou, de mettre de l'encre dans les encriers, au cas où l'inspecteur voudrait nous faire une dictée. Agnan a pris la grande bouteille d'encre, et il allait commencer à verser dans les encriers du premier banc, là où sont assis Cyril et Joachim, quand quelqu'un a crié « Voilà l'inspecteur !» Agnan a eu tellement peur qu'il a renversé de l'encre partout sur le banc. C'était une blague, l'inspecteur n'était pas là, et la maîtresse était très fâchée. « Je vous ai vu, Clotaire !» elle a dit. « C'est vous, l'auteur de cette plaisanterie stupide! Allez au piquet !» Clotaire s'est mis à pleurer. Il a dit que s'il allait au piquet, il allait se faire remarquer, et l'inspecteur allait lui poser des tas de questions, et lui, il ne savait rien, et il allait se mettre à pleurer, et que c'était pas une blague, qu'il avait vu l'inspecteur passer dans la cour avec le directeur. Et comme c'était vrai, la maîtresse a dit que, bon, ça allait pour cette fois-ci. Ce qui était embêtant, c'est que le premier banc était tout plein d'encre. La maîtresse a dit alors qu'il fallait passer ce banc au dernier banc, là où on ne le verrait pas. On s'est mis au travail et ça a été une drôle d'affaire. Parce qu'il fallait remuer tous les bancs et on s'amusait bien. Et l'inspecteur est entré avec le directeur. On n'a pas eu à se lever parce qu'on était tous déjà debout. Et tout le monde avait l'air bien étonné. Ce sont les petits, ils sont un peu dissipés, a dit le directeur. Je vois, a dit l'inspecteur. Asseyez-vous, mes enfants. On s'est tous assis et comme nous avions retourné leur banc pour le changer de place, Cyril et Joachim tournaient le dos au tableau. L'inspecteur a regardé la maîtresse et il lui a demandé si ses deux élèves étaient toujours placés comme ça. Et la maîtresse, elle a fait la tête de Clotaire quand on l'interroge, mais elle n'a pas pleuré. « Un petit incident », elle a dit. L'inspecteur n'avait pas l'air très content. Il avait de gros sourcils tout près des yeux.
Bonjour, je m'appelle Fad, je suis dans la classe de Madame Quilici au CM1 à Louvicogne à Calvi. Aujourd'hui, je vais vous présenter le livre jaune de Fred Bernard et François Roca. Le train jaune. Fiévreux, Sam l'explorateur. Une flèche empoisonnée dans le bras se cache dans l'ombre d'une plante gigantesque. Il glisse et tombe, nez à nez avec un énorme anaconda vert. Express 647, Old Cuida, Noi Caldera, Terminus, gare de Noi Caldera, tout le monde descend. Théo comptait bien terminer son livre dans le train qui l'emmenait chez son grand-père, dans la ville de Noi Caldera. Mais la rapidité du train bleu express l'en a en empêché. Ça ne se serait pas passé comme ça à l'époque du train jaune, pensa Théo. Seulement 6 chapitres dévorés, les péripéties de Sam l'explorateur emplissent encore la tête de Théo lorsqu'il aperçoit son grand-père au bout du quai. « Bonjour, grand-père. Alors, c'est le grand jour ?»« Salut, mon grand. Eh oui, tout est paré. Théo, tu sais, il n'attendait plus que toi. » Théo frétille accroché au bras de son grand-père. Il trotte comme un fou pour suivre les grandes enjambées du vieux cheminot qui le conduit tout au fond de la gare. Ce quai est plus long que le trajet entre Old Cuida et Noi Caldera. Pas vrai, intimidé Théo, se contentant d'un petit rire nerveux. Caché derrière le dernier train bleu express du dernier quai. Enfin, il est là, le train jaune, il est comme neuf. Grand-père lui a donné une seconde jeunesse en sa qualité de plus vieux conducteur de la compagnie. Il a été autorisé à remettre sur les rails le train jaune. La vieille machine était depuis longtemps relégée au rang d'antiquité, au musée de Nourcadera. Mais aujourd'hui, là-bas, l'attente attendue peut commencer. Le train jaune s'ébranle. Grand-père est le dernier à savoir encore le conduire. Et il attend bien initier son petit-fils. Théo est aux anges, avec une habileté étonnante. Le vieil homme guide aisément son train jaune et ses wagons hors des rangs serrés des impassibles trains bleus express. Le train jaune siffle et sort de la gare. Théo observe son grand-père manipuler les leviers et les manettes, tandis que la locomotive s'élance, souffle, expire et crache. Impressionné, il sent vivre la machinerie tout autour de lui. Sam l'explorateur est sorti de son esprit et le grand anaconda jaune roule et fume. Ému, le grand-père se souvient et raconte comme les livres, les compagnons préférés de Théo. Tu vois ces avenues, ces ponts, ces parcs, ces places, toute cette grande cité qui est devenue Nourcadera. Eh bien, la première fois que le train jaune est venu ici, il n'y avait rien, rien du tout, grand-père. Strictement rien, juste l'immensité de la plaine et le fleuve qui l'embreuvait.